6h03, lundi 19 novembre. Bonne journée, bienvenue à l'antenne du 98.5 FM. C'est une semaine qui s'amorce avec des prévisions de météo un peu hivernales. D'abord, ce matin, c'est faible neige, autour de moins 1 degré. Et pour le début de semaine, c'est vraiment de la neige qu'on prévoit. Des averses ce matin, possiblement aussi au cours de l'après-midi. Mais il n'y a pas vraiment d'accumulation dérangeante, si vous voulez. Maximum prévu, plus 2 degrés. Ce soir et cette nuit encore là, nuageux. De la neige qui va commencer de façon plus importante durant la nuit, avec un minimum de moins 4, assez venteux, ce qui fait que le refroidissement éolien devrait donner à peu près moins 10 degrés. Pour mardi, on prévoit de la neige, une accumulation de 2 à 4 cm, température autour de moins 3. Et dans la soirée, durant la nuit, averse de neige également, et même mercredi, on prévoit de la neige intermittente. Et quand vous regardez les précipitations dans les deux jours, là, soit demain et mercredi, on parle d'environ 3 cm. Après quoi, deux jours de froid, c'est-à-dire que jeudi, on prévoit du soleil moins 7, moins 11 durant la nuit. Dans la nuit de mercredi à jeudi, là, on parle de moins 16 degrés, degrés réels, pas une projection avec en tenant compte des vents. Vendredi, moins 3, et on va donc clôturer la semaine par du temps quand même assez froid. Dans les nouvelles ce matin, beaucoup de choses. D'abord, la nouvelle qui cogne depuis la semaine dernière, bien sûr, c'est la décision du gouvernement de l'Ontario de frapper de plein fouet les francophones en faisant disparaître le commissaire responsable des plaintes, responsable d'assurer un suivi des dossiers des francophones en Ontario, et également de renoncer au financement de l'université francophone. Donc, c'est un projet qui était prévu pour 2020. Doug Ford l'avait appuyé durant la campagne. Et là, ce qui est complètement aberrant, c'est qu'on nous donne comme excuse des choix à faire, des restrictions budgétaires à imposer. Vous comprendrez que dans le budget de l'Ontario, c'est une dépense qui pèse pas lourd, là. Mais elle est, en même temps, tellement symbolique. Alors, depuis les derniers jours, on sait, un, que le premier ministre, M. Legault, va rencontrer Doug Ford pour essayer de lui vendre de l'électricité. Et deux, pour aborder aussi, évidemment, la question des francophones. Il y a Mélanie Joly qui a lancé dans l'univers un message à quiconque du gouvernement conservateur de l'Ontario est ouvert à la discussion. Et il y a deux ou trois choses qu'on peut noter. Caroline Mulroney, qui est la ministre responsable, a vendu le message gouvernemental de la restriction budgétaire, ce qui étonne quand même. Et dans le fond, a-t-elle le choix? Si elle s'oppose, elle doit quitter. C'est une question de principe. Quand tu décides de frapper de plein fouet les francophones ontariens, les franco-ontariens, c'est pas juste là une parenthèse du moment. Deuxièmement, est-ce que vous avez entendu beaucoup de premiers ministres des autres provinces? Avez-vous entendu beaucoup de chefs des partis d'opposition? Il y en a eu un peu, mais on ne peut pas dire que les conservateurs de l'Ontario, fédéral de M. Scheer, ont été très, très, outrés de ce qui se passe. Et moi, ce qui m'a frappé dans tout ce débat-là, c'est qu'on a une minorité qui est quand même importante en Ontario, de Franco, qui se battent pour des institutions, qui sont battus pour un hôpital. Et c'est comme si, ailleurs au Canada, on n'entend personne lever le ton. Imaginez qu'au Québec, il y a eu une attaque ciblée comme celle-là contre la minorité anglophone. Et je sais qu'il y a des gens sur les médias sociaux en fin de semaine qui disent qu'on devrait imposer le même genre de traitement. Il faudrait être con pour dire ça. Parce que la minorité anglophone a des droits et on se doit de respecter les droits. C'est pas parce qu'un voisin bafoue une minorité qu'il faut faire la même affaire. Je trouvais ça un peu tordu comme réflexion. Mais imaginez là, quelle serait la réaction ailleurs au Canada. Or, pour ce qui est des francophones, il y a d'autres provinces où il y a des minorités francophones. Donc, on n'entend pas grand monde. Alors, est-ce que ça peut donner un certain résultat? On verra. Mais il y a quelque chose de philosophique dans l'approche de Doug Ford. Il n'y en a rien à cirer des francophones, des minorités. Et ce n'est pas sa clientèle. Et il trouve que c'est une dépense inutile. Point à la ligne. Il ne faut pas chercher 22 analyses, là. C'est pas mal, celle-là. Deuxième nouvelle ce matin, le Parti québécois, on va en parler avec Bernard tantôt, qui a fait son examen C'est normal, après une défaite, et surtout une défaite de cette ampleur. Jean-François Lisée dit, écoutez, oui, on a planté, mais n'eût été, entre autres, de ma charge contre Québec solidaire, on aurait planté davantage. Et là, on comprend que l'idée de base, c'est de revenir à l'indépendance. Qu'on soit de gauche, de centre, de droite, le Parti québécois invite tous les indépendantistes à joindre les rangs et à définir l'ensemble de la plateforme par la suite. Mais le point de convergence, le point commun, c'est l'indépendance. Or, on le sait, c'est une idée qui actuellement ne se vend pas. On n'a pas un intérêt très, très prononcé, autant chez les plus jeunes que chez l'électeur qui a d'autres préoccupations. Pas pour rien que le PQ avait, disons, mis ça à l'agenda pour en beaucoup plus tard. Et là, c'est le problème du Parti québécois. La question brutale, plate à poser, là, le Parti québécois sert à quoi? Et je sais que ça dérange quand on dit ça, mais c'est une réalité. Le Parti québécois s'est fait dépasser sur des questions comme l'environnement par Québec solidaire. Sur d'autres valeurs de l'identité, la CAQ a pris pas mal de place. Par rapport également aux attentes de la classe moyenne, des familles québécoises, la CAQ a le dessus. Sur le multiculturalisme, c'est le PQ, le Parti libéral, pardon. Alors, tu sais, c'est quoi la raison d'être du Parti québécois et est-ce que sa raison d'être intéresse quelqu'un? Ou en tout cas, en nombre suffisant. C'est pas mal la question qu'on peut poser ce matin. Manif en fin de semaine pour protester contre les positions canadiennes dans différentes négociations de libre-échange, donc organisées par l'UPA, et les producteurs disent attendre la compensation promise suite au nouvel accord avec le Mexique et les États-Unis. Et deux, on attend les détails de produits américains qui seront vendus sur le marché canadien. Et c'est sûr que quand on parle d'environnement, qui est un thème assez dominant, l'achat de proximité, l'achat local s'impose. On a-tu besoin de faire venir du lait de l'extérieur alors qu'on est capable d'en produire ici? On a un système de gestion de l'offre qui, je vous le rappelle, fait en sorte que ça coûte plus cher quand même. Ailleurs, on subventionne les producteurs. Puis on a une agriculture aux États-Unis très industrielle. Il y a encore des fermes à plus petite échelle, entre autres dans le Vermont, mais ce n'est pas le même genre d'agriculture. Et les producteurs ont raison de s'inquiéter, et pas juste les producteurs de lait, mais producteurs maraîchers également, face à certains produits. Mais l'UPA a un examen de conscience à faire. Parce que l'UPA, c'est à la fois un monopole syndical, mais c'est le joueur qui gère tout dans le secteur alimentaire. Et quand vous regardez des documentaires comme celui de Marc Séguin, quand vous voyez à quel point c'est difficile de sortir du modèle de l'UPA, de produire de façon différente, de permettre à des jeunes de démarrer, mais avec le prix des quotas, par exemple, ça coûte une fortune. Un jeune n'est pas capable de démarrer une ferme laitière, il va s'endetter pour le restant de ses jours. Alors, il y a des questions aussi, là. On comprend, puis moi, je suis le premier à dire, si tu peux acheter des produits laitiers québécois, des légumes, des fruits du Québec, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas juste du nationalisme économique, c'est une simple logique de savoir qui produit quoi, avec des critères qui sont évidemment plus sévères qu'ailleurs, et aussi avoir, disons, une empreinte de carbone, comme on dit, réduite dans la mesure du possible. Alors, ça a attiré environ 5 000 personnes hier au centre-ville de Montréal. 6h13, on va retrouver Marc. Ça a commencé un peu carré pour la Rive-Sud de ce matin, oui. Merci beaucoup. Je vais vous parler de cette poursuite policière qui a lieu en fin de semaine. Il y a une femme qui a été grièvement blessée. Ça roulait à haute vitesse, sortie du pont Jacques-Cartier. On roulait sur Sherbrooke. Finalement, donc, le conducteur fuyard est allé percuter un lampadaire. Il y a une femme qui a été touchée. Elle est en train de déneiger, blessure extrêmement grave. Et bien, on s'est demandé, mais pourquoi le conducteur se poussait de la police? Et là, on découvre des choses intéressantes. Puis j'en ai parlé avec Monique hier pour savoir qui est le gars en question. Et on peut vous dire que ce gars-là est connu au conseil municipal de Longueuil. Il y a entre autres des extraits vidéo qui circulent où on le voit aller plaider devant le conseil. Il pose des questions constitutionnelles. Ça fait partie des gens qui disent que le pouvoir politique, le pouvoir juridique au Québec est exercé de façon illégale parce qu'il va à l'encontre de la Constitution. Et là, il soulève un paquet d'arguments juridiques en disant qu'on a, par exemple, aboli l'Assemblée, le Conseil législatif au Québec, c'est illégal. Et là, il est devant le Conseil, puis il plaide la fidélité à la reine, puis le serment d'allégeance et tout ça. Et dans ce cas spécifique, il a fait une bataille juridique qu'il a gagnée là, pour qu'une policière reçoive un constat d'infraction parce qu'elle avait fait une faute au Code de sécurité routière à bord de son véhicule de police. Et il a gagné. C'est une bataille contre le système. Mais vous avez de plus en plus de gens qui se déclarent citoyens souverains. Et vous avez, bien sûr, tous ces sites web, non seulement au Canada, mais on en retrouve ailleurs. On dit qu'au Canada, il y aurait 30 000 personnes qui seraient des espèces d'adhérents à ce mouvement, qui est quand même assez populaire, de « Free Men on the Land », des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas à payer d'impôts, des gens qui considèrent que le système juridique, c'est pas pour eux, qui sont des citoyens souverains. Donc, des gens qui contestent les cotisations de Revenu Canada, de Revenu Québec. Alors, des gens qui disent « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Moi, je n'ai pas à me soumettre à vos lois et règlements. Je suis une entité juridique différente. » Aux États-Unis, on considère ces mouvements-là pratiquement comme étant terroristes. Ils ne reconnaissent pas l'autorité des tribunaux, ne reconnaissent pas l'autorité des parlements. Et hier, je vous le dis, avec une simple recherche, disons, les mouvements conspirationnistes, j'en ai trouvé pas mal. Puis je résume, je vous donne quelques cas. Je parlais tantôt de une femme médecin qui est obligée de payer ses impôts. Imaginez-vous, elle est membre du réseau public et elle considère, parce qu'on lui a fait la démonstration, qu'elle n'a pas à payer pour ça, qu'elle n'a pas à payer ses impôts. Alors, il y a, aux yeux des autorités policières, un potentiel, peut-être pas de violence, mais de désobéissance civile de la part de ces gens-là. Alors, est-ce que ça veut dire que samedi, il a refusé d'obtempérer parce qu'il se sentait menacé par des policiers, parce qu'il considère qu'on n'a pas à l'arrêter? On verra quand il va comparaître devant le tribunal. Entre-temps, en France, mouvement des Gilets jaunes qui protestent contre les hausses de taxes sur le carburant. C'est l'effet de la taxe carbone annoncée par le gouvernement. Et le bilan est quand même d'un mort. En fait, c'est une femme qui est décédée, une morte, dans cette manifestation. Nombre important de blessés, 400 blessés, dont 14 grièvement. Donc, partout en France, des espèces de poches de résistance où on a vu, par exemple, des groupes qui bloquaient des routes, qui bloquaient des voies de service, qui s'en sont pris au parc de Disney en banlieue de Paris. Donc, ça veut dire que c'est une mobilisation très différente. C'était pas une manif à un endroit ou deux endroits, mais des attroupements à plusieurs endroits, des blocages illégaux. Et on a même vu la police soutenir les manifestants. Par contre, ça a donné lieu à du dérapage, du dérapage raciste, xénophobe, des gays qui se sont fait brasser, des Noirs qui se sont fait insulter, des musulmans qui se sont fait insulter. Et on a senti, je dirais, dans la manifestation, un peu l'ombre du mouvement de Marine Le Pen ou encore des gens d'extrême droite. Mais c'est un ras-le-bol exprimé par les Français face aux augmentations de taxes. Et le premier ministre Édouard Philippe a dit qu'il avait entendu les protestations, mais que le gouvernement gardait le cap sur ses réformes. Donc, des hausses quand même substantielles. Et le gouvernement Macron, en fait, du président Macron, reconnaît que ça va coûter plus cher, si vous voulez, aux Français. Et c'est pour ça. Beaucoup disent, on regarde nos revenus n'augmentent pas à la cadence des augmentations de taxes, de tarifs qui sont imposés par le gouvernement. Ensuite, dans les autres nouvelles, le ministre Lionel Carman qui se donne 2 ans pour concrétiser son projet d'améliorer le dépistage précoce des troubles du développement. Et comment il va faire ça? Bien, il va mettre des ressources au CLSC. On sait que dans les faits, les listes d'attente sont interminables et que de plus en plus de parents doivent se tourner vers le privé. Et donc, là, M. Carman, lui, dit qu'il va faire ça rapidement. C'est la raison de son entrée en politique, qu'on dépiste et qu'on puisse encadrer, aider des enfants qui ont des problèmes de développement. Tony Clement, vous savez, le député conservateur, ancien ministre, qui a envoyé des photos de ses parties intimes à quelqu'un qui croyait être une femme consentante, alors que c'était en fait des gens qui voulaient le arnaquer. Les enquêteurs de la GRC ont reçu pas moins de 1223 plaintes de la part de Canadiens qui affirment avoir été victimes de chantage à caractère sexuel sur Internet depuis 2012. C'est dans la presse que vous retrouvez ça. Les trois quarts des plaignants étaient des hommes. Et avant d'alerter les policiers, certains de ces plaignants ont cherché à mettre fin à cette histoire-là en versant une somme d'argent. Il y a donc 185 Canadiens qui ont payé 259 000 $ pour acheter la paix, une moyenne de 1 400 $ par victime. Il y a une victime à elle seule qui a versé 50 000 $ à la personne qui tentait de l'intimider ou de les faire chanter. Là, c'est sans compter les gens qui n'ont évidemment jamais porté plainte, qui ont honte de le faire. Et je ne sais pas si vous avez vu cette histoire aussi en fin de semaine, des employés municipaux de la MRC de Mackinac en Mauricie qui sont arrivés au travail pour découvrir sur leurs ordinateurs un message menaçant, les informant qu'ils avaient perdu l'accès à tous leurs fichiers et ils devaient payer une rançon de 65 000 $ pour faire débloquer les ordinateurs. Donc, la MRC a embauché une firme qui a négocié puis on a payé l'équivalent de 30 000 $ en bitcoin. Donc, ils ont payé la rançon, pas initiale, mais quand même 30 000. Et la MRC dit, d'abord, un, on est mal protégé. Deux, ça aurait coûté beaucoup plus cher si on avait refusé de payer. Et donc, si on avait été obligé de faire des manœuvres pour désactiver finalement des comptes puis des fichiers, et ça aurait pris deux semaines. Et c'est pour ça qu'on a décidé de payer. Rapidement, d'autres nouvelles aussi ce matin. Je vous dis d'être prudent sur cette nouvelle qui risque de faire un peu de vague aujourd'hui. Il y a un congrès de spécialistes en allergie qui se déroule à Seattle. Et hier, on a rendu public les résultats d'une étude. C'est un traitement qui dure 6 mois, 6 mois supplémentaires de suivi auprès d'enfants qui sont allergiques aux arachides. Et le traitement, là, fait pas en sorte que les enfants, maintenant, sont complètement immunisés ou encore que les enfants peuvent consommer des arachides. Le traitement qui est proposé, et je vous le dis, je mets tous les bémols, mais c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça va probablement faire jaser. L'étude est à petite échelle pour l'instant, mais c'est surtout pour protéger des enfants qui se retrouveraient en contact, pas direct, mais dans leur environnement, avec des noix, des arachides. Et donc, il semble que ça marche auprès de l'échantillon qui est encore là, réduit pour le moment, mais ce serait un nouveau traitement pour limiter les dégâts. Et puis on apprend aussi que les employés du système de santé ne se lavent pas assez les mains. Ils le font 60 % des fois où ils devraient le faire. Donc, 40 % des fois où ils passent à côté. Vous allez retrouver ces chiffres du ministère dans la presse ce matin. La cible, l'objectif du gouvernement, c'est 70 % et aucune statistique n'était comptabilisée jusqu'à l'an dernier. Et là, vous avez tous les détails par région également. Et c'est une culture à changer. C'est quand tu dis que tu travailles dans un milieu comme dans un hôpital, il me semble que c'est assez normal de se laver les mains plus souvent qu'autrement. 6h23 minutes. Les ponts de la Rive-Sud.